L'astragale de Marseille est un bijou de l'évolution qui a su s'adapter aux conditions extrêmes de vent, de sel et d'aridité du littoral des Calanques. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chronique astragale. Mes microbes et moi vous souhaitons la bienvenue. Je suis Céline.
Je suis Gaëlle.
Et je suis Manon.
Du coup Céline, astragale, c'est quoi le concept ?
Alors le concept, c'est une volonté d'avoir un espace comme ça de discussion ouvert. Pour mettre en avant les figures féminines de Marseille et par rapport à leur parcours de vie, que ce soit au niveau culturel, de parcours différents.
Et donc pourquoi astragale ? Parce que c'est vrai que le nom peut intriguer. D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est une astragale ?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie, vu que c'est une chronique marseillaise et féminine, j'avais envie qu'il y ait ce côté-là marseillais. Donc l'astragale de Marseille, c'est une plante endémique du littoral des Calanques et qui est en fait... un petit bijou d'évolution parce qu'elle a elle peut enfin elle résiste au vent, à l'aridité, au sel, etc. Et je trouvais que c'était une belle métaphore pour les invités que nous recevrons tout au long de nos chroniques et montrer un petit peu la résilience et la résistance que parfois nous devons avoir dans nos parcours différents. Voilà.
Donc astragale, c'est pas mal.
Astragale, c'est pas mal, en effet.
Ok, super.
Bon, Céline, on va aussi un peu découvrir quelle astragale tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous en dire plus ? Qui es-tu, Céline ?
Alors, qui suis-je ? Moi, c'est vrai que mon parcours a vraiment changé à l'arrivée de mon fils il y a 4 ans et demi maintenant. Je dis toujours que ce petit tout-là m'a révélée. Et j'ai jamais fait de crise d'adolescence, mais j'ai fait une crise identitaire en devenant maman. Donc, c'est vrai que... avec l'arrivée du petit, donc un allaitement long qui a été pour moi une expérience extraordinaire. Une maternité quand même assez isolée puisqu'on était en plein confinement. Je me suis posé la question en me disant, bon ben voilà, pour les femmes et surtout au départ de l'allaitement, comment les accompagner. C'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir au niveau de ça. Et puis, au fur et à mesure des réflexions et des interrogations, j'ai voulu faire un accompagnement plus général pour les femmes, que ce soit en postpartum ou dans les grandes étapes de vie, que ce soit par exemple la ménopause, etc., qui pour moi sont des étapes cruciales dans une vie de femme. J'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de photos. Dans mon accompagnement, j'avais aussi envie de les accompagner de manière un peu artistique. J'ai passé également une formation de doula en 2023. C'est un accompagnement que je veux, comme je te disais, artistique, c'est-à-dire la reconnexion à soi, la reconnexion à son corps par l'image et par le mouvement dansé.
Et qu'est-ce qui t'a marqué parmi toutes ces femmes donc, que tu as rencontrées, que tu as accompagnées ?
En fait, si tu veux, là, en ce moment, je travaille, je suis conseillère installatrice en tire-lait. Donc les mamans qui veulent allaiter, donc... je leur livre le tire-lait, la machine. Donc, je suis en maternité ou à domicile. Donc, je suis sur tout le secteur de Marseille et aux alentours de Marseille. Donc, on voit pas mal de mamans par jour. Et le constat est le même. C'est qu'on est complètement à l'abandon dans les premiers temps au niveau de la maternité. Et c'est vrai que je suis assez choquée du paradoxe, si tu veux, de cette envie politique et gouvernementale d'accompagner les mamans avec bon, ben voilà, le 6000 premiers jours, mais, et de voir que sur le terrain, que ce soit une maman qui est au Casse-Blanc ou dans les quartiers prioritaires, la problématique reste la même, c'est qu'on est très très seule et très mal accompagnée. Donc c'est vrai que c'est des situations qui me choquent assez. Et à ma petite échelle, j'essaye pendant ce petit quart d'heure-là d'être à leur écoute et d'entendre ben, leur détresse, en fait, parce que c'est exactement ça.
Ok, et d'où est-ce que tu puisses cette force et cette détermination et cette envie ?
Mon fils. Ça peut être bateau, mais c'est vraiment ça. Il m'a, comment dirais-je, transcendé ce petit tornado, où vraiment je me suis vraiment rendu compte de la toute puissance de notre corps, ne serait-ce que par l'allaitement, où au départ, moi qui n'y connaissais strictement rien, je me suis dit bon ben j'espère allaiter un mois, et je me retrouve à plus de 4 ans être là encore, avoir un petit tout qui tétouille le sein. Donc déjà ça m'a montré vraiment la toute puissance du corps, et comment même dans des moments où on peut être extrêmement fatigué, on arrive à trouver les ressources pour continuer. Et en fait c'est ça qui m'anime, c'est de dire mais voilà, je pense que si tu es bien accompagné, ou du moins que vraiment dans les premiers temps de ta maternité, qu'elle soit, que ce soit au bout d'un an ou de 10 ans, hein, c'est pareil, mais que tu te sois vraiment reconnecté, parce que tu peux finalement changer, évoluer. Je pense que lorsque ton enfant ben, part de la maison, ce syndrome-là qu'on entend du nid vide, je pense qu'il sera moins... moins difficile cette transition-là. Bien sûr, ton enfant part de la maison, c'est toujours un gros changement. Mais toi, tu te seras pas perdu dans ta maternité, parce que ça, c'est tellement facile de se perdre dans la maternité, parce que ça te prend beaucoup. Si tu es une mère investie, c'est une logistique incroyable, c'est beaucoup de fatigue et beaucoup d'organisation, et qui font que ben, du coup des fois tu peux te dire ben non mais c'est bon, en fait j'ai la flemme, je vais juste rester à la maison. Et je trouve que les débuts c'est peut-être un petit peu une lutte avec soi-même, et de dire non mais vas-y, continue à faire des choses pour toi, pour justement pas te perdre dans tout ça. Et si toi tu es bien avec toi, mais forcément le petit ne peut qu'être heureux. Enfin du moins voilà, c'est mon expérience à moi.
Donc ta définition de la réussite, ça serait quoi ?
La définition de la réussite, ça serait d'être vraiment aligné et de avec soi, et de réussir à surmonter ses peurs. Ne pas avoir eu peur de déconstruire les schémas qui étaient très 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 ancrés et qui ont fait que cette période-là a été un petit tsunami. Je veux pas appeler cette période-là difficile, parce que ça c'est trop péjoratif et ça montrerait pas la beauté de la période, mais c'est vrai que voilà, s'écouter et malgré tout se surpasser, j'ai envie de dire.
Dis-moi, il y a un petit accent. Tu es née à Marseille ?
Moi, je suis 100% marseillaise, les filles. Okay.
Donc, du coup, qu'est-ce que cette ville, elle t'apporte même si tu es marseillaise, il y a des choses qui doivent te plaire, des choses qui doivent te déplaire.
Alors,
qu'est-ce que tu en tires ?
Alors, pour moi, je vais pas être très objective. Pour moi, c'est la plus belle ville de France. Je trouve qu'il y a une diversité extraordinaire dans cette ville où, d'un quartier à l'autre, tu as l'impression d'être dans une autre ville. C'est plein de petits villages et d'ambiances différentes. C'est vrai que je tiens beaucoup, beaucoup à ma ville. Et je l'accepte avec ses bons et ses mauvais côtés.
Ok. Et professionnellement parlant, est-ce que cette ville, elle t'a influencée ?
Non, pas forcément dire ça. Par contre, je trouve que le fait que ce soit une ville cosmopolite, c'est vraiment une belle richesse. Je trouve que c'est peut-être la plus belle richesse de la ville parce que tu peux être avec des cultures différentes, des traditions différentes. Et c'est, pour moi, c'est ce qui fait la force aussi de la ville.
Et quel est ton endroit préféré de Marseille ?
Mon endroit préféré de Marseille ? Ah, ça, c'est compliqué. Ça, c'est difficile, ça. Je vous dirais l'abbaye de Saint-Victor parce que c'était tout à côté d'où vivait ma grand-mère. Qui était pour moi une belle astragale aussi.
Ok. Merci.
Merci, Céline. Tu nous as parlé beaucoup tout à l'heure de danse, notamment dans le cadre de l'accompagnement des femmes que tu côtoies tous les jours. Est-ce que donc la danse et même la musique en général a une importance particulière pour toi ?
Oui, la danse, du plus loin que je me souvienne, elle a toujours fait partie de ma vie. Alors au départ, c'était de la danse un peu classique, mais je me suis vite ennuyée. Je faisais de la danse classique et du karaté en même temps, donc pour dire un petit peu la schizophrénie de mon caractère. Mais c'est vrai qu'elle a toujours eu une importance capitale. Moi, j'ai toujours été très timide, un petit peu maladroite, etc. Mais quand je dansais, et quand je danse, du coup... tout ça s'envole et je trouve que il y a rien de mieux que la danse. Alors ça, qui dit danse, ça veut pas dire d'exceller dans une catégorie tu vois, d'être au top du top dans la technique, etc. Mais la danse, c'est très thérapeutique. Moi, ça m'a permis de me sauver de certaines périodes très compliquées, notamment à la mort de ma grand-mère, où sans la danse, à l'époque, je faisais énormément de danse. Bon, j'avais pas d'enfant ni de mari, donc je faisais jusqu'à 25 heures de danse par semaine. Et c'est vrai que ça m'a permis de passer le deuil comme ça, et je trouve que la danse est thérapeutique. Donc c'est pour ça que dans mon accompagnement, j'avais vraiment envie de l'intégrer. Maintenant, moi, je faisais de la... J'ai fait 20 ans, j'en suis à 20 ans de danse orientale. Mais je n'avais pas forcément envie de proposer de la danse orientale. Je voulais vraiment me décentrer de tout ça. Et donc j'ai suivi une formation de danse qui s'appelle la danse des femmes. Et qui a été une méthode qui a été créée par une psychosomaticienne pour pouvoir faire danser tous les corps et en sécurité.
Donc pour toi, la danse et la musique, c'est un peu thérapeutique ?
C'est complètement thérapeutique.
Okay.
Voilà, c'est vrai que je sais pas, si je suis pas dans un bon mood, je vais m'écouter une chanson bien qui va me faire pleurer, donc je vais bien pleurer à mon coup et puis après ça va me passer. C'est vrai que je suis très très sensible, très très sensible à la musique et aux chansons plutôt françaises, on va dire ça comme ça. Assez, ouais, vieilles chansons françaises. Mais, ouais.
Et donc la thérapie du jour aujourd'hui, ça sera Dalida, si j'ai bien compris.
C'est tout à fait ça.
On va l'écouter ensemble, si vous voulez bien. Thank you.
Merci pour cette interlude musicale et merci pour ta présentation, Céline.
Merci. Ah ouais.
Vous l'aurez compris, nous sommes trois. Et maintenant, nous allons parler de Manon. Salut Manon.
Salut. Ça y est, c'est mon tour.
C'est ton tour. Manon, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu ?
Ah donc, alors moi je suis Manon, donc j'ai 30 ans et j'habite seulement depuis 2 ans et demi à Marseille. Je suis du nord de la France, donc autant vous dire que j'ai parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. Que te dire d'autre ? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé danse tout à l'heure. Bah, moi aussi, la danse fait vraiment partie de ma vie depuis mes 5 ans. Et je travaille actuellement dans le secteur associatif. On parlait de parcours de vie, de résilience tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, je pense que la première chose un peu marquante que j'ai vécue, c'est cette entrée un peu dans le monde du travail et de l'entreprise que j'ai trouvée finalement assez violente, où je ne me retrouvais pas... du tout là-dedans et où j'ai assez rapidement bifurqué vers le secteur associatif. Et j'aimais beaucoup aussi tout à l'heure quand on parlait de Marseille, parce que je trouve que il n'y a vraiment pas de meilleure façon de découvrir Marseille quand on est là depuis pas longtemps qu'en rencontrant des associations, des personnes qui font bouger les choses comme vous, comme toi Céline, et qui vont vraiment, on va dire, apporter du bon et des solutions avec toutes les crises qu'on peut vivre actuellement. Donc en tout cas, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui fait que tu as répondu favorablement à la sollicitation de Céline quand elle t'a parlé de la chronique ?
Alors déjà, la première raison, les hasards de la vie aussi. La rencontre avec Rodrigo qui est à l'origine du projet. Et peut-être aussi un vieux rêve d'enfant de devenir journaliste, de donner la parole et aussi de transmettre en fait... aux personnes qui nous écoutent des parcours de vie, de leur montrer effectivement qu'il y a des personnes qui se bougent aussi pour faire avancer les choses. J'aimais bien l'idée aussi de, effectivement, de créer un espace intime pour que les femmes puissent s'exprimer sans aller jusqu'à donner effectivement le gros mot féministe. Moi, ce qui m'a un peu marqué aussi toutes ces années, c'est à quel point ce mot peut encore être clivant, même encore aujourd'hui. J'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit non, je suis pas féministe, mais par contre, je suis pour l'égalité femmes-hommes. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, c'est aussi, je pense, ce que j'ai envie de transmettre avec vous dans cette émission.
Merci. Donc, du coup, ça fait 2 ans que tu es à Marseille, c'est ça. Tu travailles dans quel secteur d'activité dans l'associatif, mais c'est quoi exactement ton métier aujourd'hui?
Alors, je travaille pour une association qui met en relation des personnes qui souhaitent s'engager sur leur temps libre ou sur leur temps de travail. Et des associations qui sont en grande recherche de compétences et de bénévoles mobilisés. Et moi, donc, dans le cadre de cette association, je travaille pour un observatoire qui va s'interroger sur les questions liées à l'engagement, au bénévolat. Donc, autant vous dire que moi, en tout cas, j'ai une vision aussi très optimiste de Marseille, du tissu associatif, de toutes ces personnes qui font bouger les choses, mais qui ont aussi besoin d'être soutenues et accompagnées par toutes les forces vives qu'on peut avoir sur le territoire.
Ok. Et tu disais que tu as mal vécu l'entrée dans la vie active. Qu'est-ce que tu as mal vécu dans cette expérience? Et par rapport à la vie en entreprise et la vie en association, qu'est-ce qui fait que ton cœur a balancé sur l'associatif?
Ouais. Moi, j'ai suivi un peu la voie toute tracée qu'on m'a toujours dit donner de faire. J'étais assez bonne élève, j'aimais plein de choses, donc c'était toujours dur de choisir. Et on me disait toujours, fais quelque chose de très généraliste, ça va t'ouvrir plein de portes, et puis tu verras plus tard, tu pourras faire ce que tu as envie. Donc, assez naturellement, avec mon cursus, quand je suis arrivée dans le monde du travail, je me suis retrouvée à débarquer avec mes 24 ans en entreprise et à me dire mince, au bout d'un moment, ça va être ça maintenant. J'ai l'impression que je suis en train de faire un bullshit job, quoi. Donc, j'ai démissionné quand même assez rapidement et j'ai fait mes premières marques dans le sud à Montpellier avant d'arriver à Marseille, où j'ai travaillé d'abord à mon compte pour des associations et aussi pas mal dans le secteur culturel. Et donc les différences, il y en a pas mal. Il y a déjà l'objet du travail, pourquoi on le fait, mais il y a aussi quand même quelques similitudes, on va pas se mentir, en termes d'organisation.
Ok. Et le plus gros défi que tu as eu à relever dans ton parcours pro ou perso, c'est quoi?
Je pense que justement, c'est effectivement cette remise en question que tu peux avoir en te disant, on m'a dit que j'allais m'éclater, que ça allait être trop bien. Et en fait, je ne trouve pas trop la satisfaction quand je me lève le matin d'aller au travail. Donc, il y a quand même un peu... toute cette déconstruction qu'il y a à faire, parce qu'on est quand même dans un monde où le travail c'est très important, tout va très vite et il faut y trouver sa place. Donc, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est assez difficile et je pense qu'on se prend aussi tous plus ou moins effectivement en arrivant dans le monde du travail.
Et en dehors du travail, est-ce que tu as des activités, des hobbies, enfin des choses qui te passionnent?
Ouais, totalement. Alors moi, je suis une grande passionnée de danse. J'en fais depuis mes 5 ans. Et comme toi, Céline, je suis passée par la danse classique. Ça m'a un peu traumatisée, mais ça m'a aussi appris et donné pas mal de rigueur, de technique. Donc, on va dire que je ne vais pas renier ces années.
Tu en as fait combien de temps?
J'ai commencé à 5 ans. J'en ai fait sans interruption jusqu'à mes 18 ans.
De la danse classique?
Ouais.
Ok.
J'ai quand même tenu longtemps.
Ah, t'as tenu longtemps, plus que moi.
Mais j'ai vite complété avec notamment du contemporain. Après, je fais aussi pas mal de danse de couple, mais en réalité, j'aime tout. Et c'est vrai que, effectivement, quand on disait tout à l'heure que c'est thérapeutique, c'est pas du faux semblant. Et moi, je pense qu'en tout cas, c'est accessible à tous et à toutes et ça fait beaucoup de bien.
Complètement. Et là, actuellement, tu fais quoi? Tu continues quel style de danse?
Actuellement, je fais du contemporain, surtout.
Ah, bien, super. Super, super.
Et sinon, en dehors de ça, j'aime beaucoup la littérature aussi. Le spectacle vivant, la photo également. Bon, bref, il y a un peu trop de choses.
Jamais trop.
Et du coup, Marseille, pourquoi Marseille ?
Alors moi, Marseille, je m'y suis retrouvée un peu au gré des hasards de la vie. J'ai pas eu, en tout cas comme les personnes qui peuvent être arrivées récemment, l'idée comme ça un jour en me levant de « tiens, Marseille, ça a l'air génial, je vais aller vivre à Marseille ». Non, je me suis retrouvée en fait effectivement d'abord à Montpellier comme je le disais tout à l'heure et après en cherchant du travail, on va dire que les voies du ciel m'ont amenée à Marseille et je suis effectivement très contente parce que j'y serais peut-être pas allée spontanément de moi-même et effectivement je trouve que c'est une ville qui est vraiment super riche dans laquelle je m'éclate et dans laquelle on peut vraiment aussi se faire plaisir, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux projets.
Et comment on évolue en tant que femme non marseillaise à Marseille ?
Eh bien, difficilement. Non, pas si difficilement que ça, mais on va dire que effectivement, on sent ici qu'il y a... La culture marseillaise qui est tellement ancrée effectivement qu'on peut être un peu aussi dérouté en arrivant. On peut parfois se retrouver ramené à bah oui t'es pas marseillaise mais bon les Marseillais sont quand même très accueillants et moi je sais que j'arrive dans un paysage avec des personnes voilà qui existent avec leurs habitudes avec leurs spécificités leurs avantages leurs inconvénients et moi, je suis là aussi à me nourrir de ça.
Et tu as pu découvrir tous les recoins de Marseille ou il y a encore des endroits inexplorés que tu aimerais découvrir ?
Alors non, je pense pas et j'oserais encore moins dire ça devant Céline qui est vraiment marseillaise.
Attention, attention.
Qui pourrait vraiment me poser une colle. Non, j'irai pas du tout jusqu'à dire tous les recoins. Il y a encore plein de choses... à voir, à découvrir. Et moi, j'aurais aussi beaucoup de mal à dire un endroit, effectivement, comme je t'ai posé la question tout à l'heure, mais un endroit un peu préféré de Marseille, peut-être sur les toits du Mucem, à l'abri du vent, avec un bon bouquin sur un transat, ou à faire des balades dans les Calanques avec des amis. Bon, en tout cas, il reste encore pas mal de choses à voir.
D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne comme toi qui déciderait de venir s'installer à Marseille, et une femme notamment, mais aussi un homme, hein, comme tu l'as fait, avec la rétrospective et si tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui arriverait à Marseille comme ça demain
Je lui conseillerais, vraiment de pas venir... de pas venir avec des attentes, mais pour moi c'est d'avoir juste les yeux grands ouverts, de vraiment d'accueillir un peu ce que la ville elle a à offrir, parce que je trouve qu'elle a vraiment une identité qui est très forte et qui peut aussi intimider en arrivant, et voilà, moi je trouve qu'au contraire faut y aller, faut assumer, on n'est pas marseillais mais on est là aussi pour découvrir ce que la ville a apporté et peut-être à mettre aussi notre petite pierre à l'édifice.
Et quels artistes marseillais, je parle de musique, tu connaissais avant d'arriver à Marseille ?
Aucun.
Aucun. Ah, Yam,
Jules, peut-être.
Jules. Ah, voilà. On a parlé de Jules. Ouais. Bon, il y en a qui aiment Jules, on va pas critiquer. Mais tu connaissais pas du tout la culture musicale, enfin, du moins les artistes qui faisaient la culture musicale,
non.
Et qui font la culture
non,
musicale.
Non, pas du tout, pour la bonne raison que c'est vrai que moi, la musique, j'aime beaucoup ça, mais ça vient surtout à moi via effectivement la danse. Et je sais encore même aujourd'hui que je me refuge pas assez là-dedans, que c'est pas effectivement quelque chose où j'ai une cross culture. Donc ouais, Marseille là-dessus, ça a justement plein de choses à m'offrir encore aussi dans ce domaine.
Et du coup, toi musicalement, tu te positionnes comment ? Quel style de musique tu écoutes ? Quel style de musique te fait t'évader ? Quel style ? Enfin voilà, quelle musique écoutes-tu ?
Alors bon, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai vécu 2 ans à Madrid, ceci est mon excuse, donc j'adore le reggaeton. Je vous infligerai pas aujourd'hui d'écouter du reggaeton avec moi. J'aime aussi beaucoup la chanson française. Moi, par exemple, Céline Dion, c'est vraiment mes souvenirs d'enfance avec ma grand-mère qui mettait la chaîne IFI à fond et nous qui dansions comme des folles là-dessus. Donc forcément, c'est un peu ma Madeleine de Proust et je continue à adorer. Mais voilà, après, j'aime aussi beaucoup d'électro, un peu chill, etc. Voilà.
Et le dernier concert que t'as fait ?
Alors, le dernier concert que j'ai fait, waouh. Je pense que je suis allée voir Aurel San il y a un an et demi ou quelque chose comme ça.
D'accord, ok. Et ta chanson totem, ça serait quoi ? La chanson à laquelle tu te raccroches quand ça va ou quand ça va pas ?
Je pense pas que j'ai une chanson totem en particulier, mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi ça va être facilement la chanson française parce que ça m'évoque aussi plein de souvenirs que j'ai pu avoir en famille.
D'accord, ok. Et là, tu as choisi quoi comme morceau pour nous exprimer ton ressenti du jour ?
Et là, aujourd'hui, bah, effectivement, je vais vous faire écouter Blood Flow, ouais, du groupe Grand Brothers. Et donc, rien à voir avec ça, mais en fait, j'ai entendu cette musique la première fois en regardant le film Hors Normes, où il y a Vincent Cassel qui joue dedans. C'est un film qui parle de deux éducateurs qui ont des associations et qui s'occupent notamment des personnes en situation de handicap mental ou autiste, et qui vont pour ça aussi embarquer des personnes issues de quartiers un peu difficiles pour prendre soin des jeunes. Donc c'est vraiment un film qui parle de rencontres, de difficultés aussi de ces personnes, mais même du monde associatif à les accompagner. Et en fait, la première fois que j'ai écouté cette musique dans le cadre de ce film, je me suis dit waouh. Voilà. Et depuis, je l'écoute assez souvent et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui.
Alors, on l'écoute. Thank you.
Bien, mais merci beaucoup pour ce morceau qui est très inspirant, je trouve. Gaëlle, c'est à nous.
C'est à moi.
C'est à toi. À toi de nous parler un peu de nous. Quel est ton parcours, alors, Gaëlle ?
Bon parcours. Alors, moi, j'ai 41 ans. Je suis célibataire sans enfant. Et oui, une femme célibataire à 41 ans et sans enfant, ça existe. Par choix, oui et non. Moi, je ne suis pas de Marseille, je suis de Bordeaux. Enfin, du moins, j'ai grandi à Bordeaux, mais je suis née en région parisienne. Alors, pas de levée de bouclier, s'il vous plaît.
Je ne dirai rien parce qu'ici.
Et moi, ça fait 11 ans que je suis à Marseille. Donc, j'estime que maintenant, je peux me proclamer ou m'auto-proclamer marseillaise.
Ça va, on accepte.
Moi, mon parcours, il est, comme tout le monde, semé d'embûches émotionnellement, professionnellement parlant. Enfin, tout ce qu'une femme et un homme aussi peut vivre. Est marqué par des étapes, par des blessures, par des failles. Mais ce qui fait que moi, aujourd'hui, je suis là où j'en suis, c'est justement ce parcours-là et j'en suis assez fière. Moi, je suis née en 83 et je suis née de parents qui avaient entre 19 et 24. Ma mère avait 24 ans, mon père avait 19 ans, donc très jeune.
Très jeune, ouais.
Donc, un bébé résilient qui a tout de suite compris qu'il allait falloir se débrouiller seul dans la vie et avancer. Parce que quand on a des parents qui sont un petit peu immatures, on avance comme on peut. Et j'ai grandi comme ça, avec des étapes de la vie où j'étais confrontée à des choses d'adultes et sur lesquelles il fallait que je m'adapte et que je continue quand même à garder cette âme d'enfant un petit peu, un minimum. Mais on grandit toujours trop vite dans ces situations-là. Et j'ai évolué comme ça sur des années. Et à aujourd'hui, comme je disais, ça fait ce qui fait que je suis devenue maintenant un paradoxe, on va dire. Parce que je suis quelqu'un de très, très carré, mais en même temps, je peux être un peu freestyle dans tout ce que je fais. Mais il y a toujours ce côté où je lâche pas prise et je sais où je vais et je me laisse très peu le droit à l'erreur. Moi, là, ça faisait 12 ans que j'étais dans le recrutement. Parce que, en fait, moi, j'ai fait plusieurs crises. J'ai fait la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine et la crise de la quarantaine. Donc, j'ai évolué professionnellement dans différents secteurs d'activité. J'ai commencé par le tourisme. Après, j'ai été commerciale. Et à 30 ans, je me suis dit, il manque un truc. Parce que faut savoir que quand on évolue dans une sphère où... où on a besoin d'être tout de suite indépendant, on développe très certainement des facultés qui sont nécessaires pour survivre. Et donc moi, j'ai une hypersensibilité et je suis un peu en pâte. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui me touchent et que je comprends très vite. Et en fait, quand j'ai fait ma reconversion, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et de ça, il y avait ce truc qui manquait dans ma dimension commerciale, puisque... aller voir j'étais commerciale pour des garagistes alors, dans le fin fond de la Vendée en plus, donc vous imaginez pas. Et en fait, quand j'ai fait la liste des métiers qu'il y avait dans une société, enfin des fonctions, les RH sont ressortis. Donc à 30 ans, première crise, je lâche tout, je fais une reconversion professionnelle, je repars à l'école en alternance et je me dis que j'ai besoin d'utiliser ces facultés pour quelque chose qui soit utile et qui me passionne dans ce que je fais. Je me voyais mal faire un métier où je me lève le matin et j'aime pas ce que je fais. Enfin, c'est un truc que je comprends pas. Effectivement, beaucoup de gens sont dans son cas de figure, mais moi, c'est quelque chose qui me donnait envie de vomir, de me dire que le matin, j'allais travailler pour quelque chose que j'aime pas ou qui me passionne pas. Donc, j'ai fait une reconversion. Effectivement, c'était la bonne voie parce que ça m'a permis de concilier cette sensibilité, cette capacité de détecter très rapidement les gens et de les accompagner, parce que les RH, ça a une mauvaise image, on le sait, quand on dit qu'on est RH dans une société, en général, c'est pas très reluisant, mais en tout cas, il me semblait que ma voix intérieure me disait que j'avais une vocation à aller vers ça, donc c'est ce que j'ai fait. Reconversion, et pendant 12 ans, donc j'ai fait du recrutement, je suis passée par diverses entreprises, mais c'est surtout que j'ai grandi, j'ai affiné ma manière de travailler, surtout j'ai appris beaucoup, parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, des hommes, des femmes qui m'ont raconté leur histoire professionnelle, mais indirectement leur histoire aussi. Et ça m'a permis aussi de découvrir plein de secteurs d'activité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouages de notre société. et d'être un peu plus percutante, de pouvoir échanger avec des personnes de manière globale, parce que quand on s'intéresse à l'autre, après, sous l'info qu'on prend, on peut aussi en parler avec une autre personne. Après, en fait, ça fait un effet vaste communicant qui me passionne beaucoup. En fait, moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'humain. C'est vraiment, dans les ressources humaines, il y a l'humain, et je pense qu'on a tendance à l'oublier.
En fait, c'est une forme aussi d'accompagnement.
Oui, c'est ça. Exactement. En fait, moi...
On connaît très mal le métier de RH.
Alors, c'est qu'il est mal fait, je pense. Et là, je vais m'attirer des foudres, j'en doute pas.
Mais comme on est entre nous, la personne nous entend.
Mais comme on l'a dit, il y a humain dans les ressources humaines. Et moi, quand je fais mon métier, je me positionne pas comme un recruteur. Parce que moi, ma partie en ressources humaines, c'est vraiment le recrutement. Donc, ça veut dire que... c'est déjà stressant pour un candidat d'arriver, il y a un enjeu pour lui. Si en plus on a une position de vide ou de mort entre guillemets sur la personne et qu'on est froid, je trouve que c'est déconcertant. La personne elle arrive avec toute sa pression, tout son enjeu, c'est un échange. Donc moi quand j'ai pris mes fonctions les premières fois, j'ai tout de suite dit à tous mes employeurs, moi ma vision du recrutement c'est ça et je ferai pas autrement. Et si vous me demandez de faire du rendement, si vous me demandez de faire du chiffre, etc., j'en ferai, mais j'en ferai à ma manière. Et il est hors de question que je prenne un candidat comme un numéro et que je n'ai pas ce temps et cette patience et cette envie d'écouter. Donc, pendant 12 ans, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Donc là, comme je disais, donc crise de la quarantaine, ça y est, on y est.
L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je suis revenue d'un voyage à Bali. Et en fait, j'ai vu comment les gens, l'état d'esprit, j'ai vu pas mal de choses qu'on ne voit pas forcément en France, entre guillemets, parce que ça peut être en Europe, ça peut être aux États-Unis, ça peut être vraiment dans les pays occidentaux. En fait, je suis rentrée et je me suis dit, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Pour moi, en fait, j'avais l'impression de donner... à un employeur ce que je pouvais me donner à moi-même en étant salarié. Et je me suis dit, bon, va falloir que tu prennes une décision. Et est-ce que tu prendrais pas ton envol?
Donc, c'est des prises de conscience plutôt professionnelles que personnelles ou...
Les deux, parce que les deux vont ensemble pour moi, parce que j'estime que ton travail ne doit pas être que du... Enfin, c'est lié le pro et le perso. Et comme je disais, moi, j'ai choisi mon métier et j'ai cette chance-là et... En fait, ce que je fais quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, du coup, ça pouvait être que les deux, en fait. Donc, pour le coup, quitte à faire quelque chose, autant le faire pour moi. Donc, mais je savais pas comment j'allais me lancer. Et en fait, un jour, moi, je travaille à l'Épopée, donc l'Épopée Village. Et donc, c'est un tiers-lieu, il y a plusieurs structures. Et j'ai fait connaissance avec des personnes d'autres entreprises. Moi, je me semble le midi, on boit des bières le soir, enfin bref. Et donc, j'ai rencontré Mounia, qui est ma future associée. C'est elle qui est venue me chercher, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Elle est venue me chercher sur la base de l'observation, quand elle me voyait bosser, la manière dont je m'exprimais avec mes candidats, etc. etc. Elle m'a dit, moi, je veux monter ma boîte aussi et je veux m'associer avec toi. J'ai dit ok, ça a mis du temps à infuser dans ma tête. Mais par contre, quand j'ai décidé que je me lançais, je me lance. Donc, quand je suis rentrée de vacances en septembre 2024, j'ai dit à mon manager, c'est simple, je veux partir et je veux me lancer. Mais c'est ce que j'ai fait. Donc, depuis le 1er janvier, je suis en création d'entreprise, donc un cabinet RH qui accompagnera toutes les structures à gérer leurs problématiques RH. Mais notre positionnement est plutôt basé sur des valeurs qui sont que tant qu'on ne traitera pas bien l'humain et tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience sur le fait que ce qui fait qu'une société fonctionne, c'est les personnes qui font la société et qu'il y a des décisions à prendre et il faut arrêter de vouloir absolument mettre en avant son ego ou son désir de gagner de l'argent, parce que en fait, quand on a une personne qui est bien dans son travail, elle fait bien son travail et automatiquement, elle rendra service à la société et à son dirigeant. Donc, c'est un peu notre leitmotiv à aujourd'hui. Et en parallèle, dans ma crise de la quarantaine, même si je savais que j'avais ce côté-là, j'ai découvert mon côté artiste.
Ouais.
Voilà.
Et par quel média, du coup ?
La photo.
La photo.
Ouais, la photo. En fait, je me suis rendu compte après coup que je faisais de la photo. Mais en fait, je ne mettais pas un mot sur ça. C'est juste que pour moi, je faisais de la photo. Et avec l'explosion d'Insta et les gens qui s'improvisaient photographes, je m'étais mis dans la case des imposteurs. Et au final, non, en fait, les gens, le regard des gens sur mes photos et m'ont fait comprendre qu'il y avait un peu plus que la photo instagrammable, entre guillemets.
D'accord. Et c'était pareil. Tes photos, c'était quoi? Quand tu voyageais ou sur...
Tout.
Sur la vie quotidienne, là, de tous les jours?
Tout, en fait. Pour moi, la photo, c'est une question d'instinct et d'instinct, d'ailleurs. Et ça, on ne choisit pas forcément le moment où on va faire la photo, sauf quand on est un professionnel. Moi, je suis amatrice, hein, j'ai pas la prétention de dire ça. Mais je suis très quand même photo de rue, très photo urbaine. Mmh. Et en fait, je me suis... Alors, Marseille, du coup, je m'éclate à Marseille parce qu'il y a plein d'endroits qu'on peut prendre en photo qui sont incroyables.
Très photogénique, oui.
Et de là, germer encore une autre idée parce que moi, évidemment, une seule chose ne me suffit pas. Il faut bien que je fasse 12 000 trucs. J'ai lancé ma marque de t-shirt qui, justement... a pour vocation de mettre en avant Marseille par le biais de la photo, donc avec des primes de photos, et qui sera une carte postale pour les éventuels touristes ou peu importe, et plutôt un signe identitaire pour les Marseillais qui sont très identitaires. Mais vu que c'est suggestif, faut vraiment des fois être Marseillais pour reconnaître le lieu. Mais voilà, donc c'est un côté urbain et un peu street dans cette démarche-là aussi.
Oui, voilà, donc c'est pas forcément... des vues hyper connues de Marseille, non. Mais des instants comme voilà, ça dans un métro ou dans la rue. Exactement. Et pourquoi le t-shirt, en fait? Pourquoi cette envie de printer sur les t-shirts?
Alors, deux choses. J'ai choisi le t-shirt qui est finalement quelque chose de très masculin parce que on voit plus de t-shirts plutôt Versailles chez les hommes. Enfin, une femme va porter un t-shirt, mais elle portera peut-être différemment. Ça sera peut-être plus ajusté, plus en V, etc. Mais parce que moi, j'ai évolué quand même dans un monde assez urbain, un milieu hip-hop. Donc du coup, ce qui fait que quand je m'habille, j'aime porter des t-shirts et porter des t-shirts d'hommes en plus. Je me suis dit, c'est peut-être la chose qui pourrait réunir les hommes et les femmes d'une certaine manière. Parce qu'un t-shirt oversize porté par un nana... avec une paire de talons, ça peut être très sexy. Et en même temps, on casse un peu les codes. Donc, c'était un peu ça l'idée. Je commence par le t-shirt, mais après, on peut aussi partir sur... Je vais partir sur du sweat, enfin voilà. Donc, c'était un peu ça mon idée de départ. C'est de ne pas rentrer dans les clichés, de se dire, je suis une femme, je vais faire des vêtements pour femmes. Voilà. Donc, le t-shirt, pour moi, c'est universel aussi, quoi.
Et du coup, tu as une marque alors? Pardon, excuse-moi.
Oui, la marque s'appelle Seymar. Voilà.
Moi, en t'écoutant, Gaëlle, je me dis, cette année, donc il y a un lancement dans l'entrepreneuriat, il y a un lancement de la marque un peu de vêtements. Enfin, ça me paraît énorme. Comment tu vis un peu tous ces bousculements, tous ces changements de vie? Et puis, enfin, quand même, la transition donc, entre le fait d'être salarié et d'être vraiment à ton compte comme ça, comment est-ce que tu le vis?
Alors, je le vis pas mal parce qu'au final, sur le poste que j'occupais avant, j'étais assez indépendante. Donc, c'était comme si j'étais un peu entrepreneur, mais salariée. Et en fait, dans ma tête, tout est toujours très structuré et je laisse pas beaucoup de place à l'imprévu. Et je fais partie de ces gens qui travaillent vite dans l'urgence. Et la pression, c'est quelque chose qui me stimule et qui fait que je suis efficace. Donc, plus tu m'en donnes, plus je vais faire et plus je vais kiffer. Donc, j'ai cette posture d'entrepreneur depuis très longtemps, je pense. Mais comme tu le disais tout à l'heure... on doit rentrer dans des cases, tu dois avoir un travail, tu dois avancer, tu dois te marier, tu dois avoir des gosses. Donc du coup, je ne m'étais pas rendu compte. En fait, j'ai pris juste ma liberté. Et pour moi, le fait de plus d'être entrepreneur, c'est être libre. Voilà, donc j'ai pris ma liberté il y a quelques mois, tout simplement.
Et du coup, tu disais que tu n'étais pas marseillaise. Et pourquoi Marseille? Pourquoi tu es venue sur Marseille, toi, parisienne?
Oh non, pas parisienne.
Région parisienne, nuance. Parisienne.
Attention, j'aime pas Paris. En fait, moi, si je vous raconte l'histoire, ça va vous faire sourire. Quand j'étais petite, j'y vais chez mes grands-parents, donc du côté de Agde. Je dis pas le Cap d'Agde parce que ça a l'air encore... voilà. Avant les vacances scolaires, on se relâche un petit peu à l'école et on nous dit « on va regarder un film ». Et en fait, j'ai découvert La gloire de mon père et le château de ma mère. Et J'étais passionnée par ces deux films. Et quand j'étais petite, je me disais, un jour j'irai vivre à Marseille, un jour j'irai vivre à Marseille. J'ai vécu à Marseille une année, j'ai fait ma cinquième à Marseille parce que bah, on avait déménagé à ce moment-là, mais on est resté qu'un an. Et j'ai découvert Marseille. Et je suis partie de Marseille après avoir fini ma cinquième et je me suis dit, oui, j'irai vivre à Marseille. Et l'opportunité s'est présentée parce que ma sœur vivait à Marseille et je venais de me séparer de mon ex-conjoint et j'étais du côté de Niort. Je ne sais pas si vous connaissez cette région magnifique où il n'y a que des chèvres. Et ben voilà, donc j'ai dit, bah, Marseille, allez, c'est bon, c'est le moment. Donc je suis arrivée avec ma Twingo et ma valise, sans rien. Et là, ça fait 11 ans. Et en 11 ans, j'ai fait ma carrière professionnelle, j'ai acheté mon appartement, je me suis fait mon réseau d'amis, j'ai créé ma marque. Je suis en train de monter ma société et voilà.
Donc on peut dire que t'es pas déçue de ton rêve d'enfant finalement.
Non.
Bon.
Non.
Et toi, ton rapport à la musique dans ta vie, quelle place a-t-elle?
Pour moi, c'est vital et je me dirais même qu'elle a pu me sauver à certains moments.
Ouais.
Parce que c'est un refuge pour moi et que je suis capable... alors, je suis un véritable jukebox, il faut le savoir. Quand on est en soirée avec mes amis, dès que la première note démarre, je suis imbattable au blind test. Mais c'est pour moi, c'est vraiment un moyen de s'évader et on peut être touché par la musique et elle peut avoir une signification pour chaque moment de ma vie, quoi, tout simplement. Donc, s'il n'y avait pas eu la musique, je pense qu'il y aurait eu des moments où j'aurais pu me perdre vraiment. Donc, c'est quelque chose que j'écoute au quotidien. Je peux écouter du reggaeton, je peux écouter du Dalida, je peux écouter beaucoup, beaucoup de choses. Après, j'ai une grosse influence soul, R&B, Motown, rap US, hein, hip-hop US. Donc, mais le reste, variété française, etc.
Et s'il y avait une chanson ou une musique sur laquelle tu t'éclaterais à danser comme une folle, ce serait laquelle?
Je pense que ce serait une chanson de Kassav, peu importe laquelle, parce que ben, faut pas oublier que ben, moi j'ai des origines aussi des Antilles et que en fait ces chansons-là c'est plutôt associé à la fête, aux fêtes familiales où tout le monde danse en fait. Il y a personne assis et dès que les notes démarrent, c'est un moment de folie et ça nous réunit tous, quoi. Peu importe les disputes qu'il y a entre la tante et la grand-mère et le ci et le mi, dès qu'on met du Kassav, ça réunit, quoi.
Le pouvoir de la musique.
Et oui, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as décidé de partager avec nous aujourd'hui?
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai pas du tout choisi un morceau hip-hop ou quoi que ce soit. Moi, il y a une chanson, j'aime ma chanson totem, c'est SOS d'un terrien en détresse, parce que pour moi, elle reflète un petit peu ce que je ressens dans ce monde, c'est que des fois, je ne trouve pas toujours ma place et que j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir des guerres, des gens qui aient de la méchanceté en elles. En fait, vraiment, moi, je suis régie par l'amour de l'autre, en fait. Et d'ailleurs, ce qui fait que c'est paradoxal, parce que je peux ne pas aimer les gens à cause de ça, enfin, tout simplement. Mais c'est ce côté pur de la chanson qui dit, bah, en fait, je trouve pas ma place dans ce monde qui devrait être fait que d'amour et vraiment, je m'identifie vraiment beaucoup à cette chanson, donc ça serait ma chanson totem, en tout cas.
Ok, on va l'écouter.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau, plus beau. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. De l'univers, j'ai pas tiré mon numéro, je suis mal dans ma peau, et j'ai pas. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je crie, pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais être un oiseau. Dodo l'enfant.
Merci pour cette musique, Gaëlle. Alors, une dernière question peut-être avant de partir. Astragale ou pas Astragale?
Astragale.
Astragale, c'est bien. C'est la réponse que j'attendais. Merci à tous pour votre écoute. On a été ravis de se présenter aujourd'hui et de vous présenter la chronique. On vous donne rendez-vous très bientôt avec notre première invitée, la première invitée donc de l'émission qui a aujourd'hui une belle influence sur Marseille. Je tiens également à remercier chaleureusement Fréquence Mistral qui nous a accueillis aujourd'hui. À bientôt.